Dans la Bible, le figuier est-il un arbre maudit? On peut se poser la question et répondre positivement. Si vous en doutez, relisez donc Marc et Matthieu pour connaître l'étrange destin du figuier dit de Béthanie. Luc, lui, ne mentionne pas cet épisode. Je le rappelle. Alors qu'il sort de Béthanie avec ses disciples, Jésus a faim. Il aperçoit, stupéfait, un figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits. Ce qui est parfaitement normal, nous précise Marc, puisque ce n'était pas la saison des fruits. Il n'empêche, Jésus le maudit et l'arbre dessèche sur le champ jusqu'aux racines. Sanction brutale. Le sort du figuier dans la parabole de Luc que nous venons d'entendre est guère plus enviable. Est-il sec? Est-il en train de se dessécher? Nous ne le savons pas. Par contre, la parabole fait partie de ces passages de la Bible que nous avons parfois tendance à écarter, consciemment ou non, et même à enfouir, peut-être parce qu'il gêne un peu. C'est un peu gênant d'aller un petit peu plus loin. Pourtant, rappelez-vous, quel plaisir, je pense, chacun de vous a pu éprouver à manger une figue sur un figuier, sur l'arbre. C'est un plaisir exceptionnel. Alors, quitte à choisir, j'ai préféré cette parabole de Luc et voir si par hasard il y avait aussi des fruits pour nous aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, seul l'évangile de Luc, écrit dans les années 70, mentionne cette parabole du maître, de l'ouvrier vigneron et de ce figuier sec ou desséché. Le moins que l'on puisse dire par rapport au texte que Pierre a lu, c'est que cette parabole se trouve dans un contexte très tendu. D'une part, un homme, Jésus, un Galiléen, n'est donc pas du pays, qui se dirige vers Jérusalem au hasard des villages. Il guérit, il prophétise, alors on l'accueille ou on le chasse. Il n'est pas toujours le bienvenu. D'autre part, un auditoire très préoccupé par des événements dramatiques qui viennent de se produire et du coup qui questionnent fortement Jésus. Les faits, ils sont évoqués donc un peu avant. Les Galiléens viennent d'être exécutés de façon arbitraire et en plus, scandale des scandales, dans le cadre du temple, par les troupes romaines de Pilate. En même temps, 18 personnes ont péri dans la chute accidentelle de la tour de Siloé, qui se trouve dans l'enceinte même du temple. Question sèche. Ces hommes sont-ils, oui ou non, punis pour les péchés qu'ils auraient commis? Réponse cinglante de Jésus, répétée deux fois. Non, je vous le dis, assortie d'une exhortation, repentissez-vous, c'est-à-dire en fait changez de direction, et qui ressemble fort à une menace avec « sinon, vous périrez ». C'est donc un moment où la tension est à son comble que Luc nous propose cette parabole qui, du coup, paraît singulièrement apaisante et apaisée. Une parabole, pourquoi? Sans nul doute parce que toute parabole nous invite à prendre un certain recul, une certaine distance. En fait, c'est un détour à faire avant de revenir à ce qui est essentiel. Mais au-delà de ce récit de vignes, de propriétaires, d'ouvriers agricoles et de figuiers, récit inscrit dans la Palestine du 1er siècle, l'essentiel, lui, nous concerne toujours au 21e siècle. Le premier point que je voudrais remarquer, c'est l'évidence même de cette parabole. Cette parabole, à l'écoute, semble évidente, limpide. Bien sûr, elle est limpide. Le figuier, oui, c'est un arbre secondaire. On le plante dans les vignes et rarement en grande quantité. On en prend soin en même temps qu'on prend soin de la vigne. mais sans plus. Arracher un figuier, mais c'est l'évidence même, lorsqu'on constate qu'il s'est desséché. Un arbre stérile est un arbre inutile. De plus, il prend de la place dans une bonne terre. Et de plus, le propriétaire a déjà pris la décision. Coupe-le. Simplicité, limpidité, bon sens. Seulement voilà, le vigneron complique tout. Le vigneron, c'est un vrai professionnel qui connaît bien son travail et qui aime son travail. Le vigneron, c'est un vrai viticulteur qui connaît la vigne, qui connaît cette vigne et qui aime cette vigne. Le vigneron pourtant demande un délai, ce que nous appelons un délai de grâce. En fait, ce figuier sans figue, il l'aime. Seulement un an, il bêchera autour de l'arbre, il y mettra du fumier. J'y trouve ici une sorte d'écho au passage qu'on a lu du Premier Testament concernant Abraham et le Seigneur, lorsque Abraham dit à l'Éternel, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. » C'est là aussi une forme de prière. Ainsi, cette parabole que nous avons perçue tout d'abord simple, limpide, de bon sens, apparaît comme surprenante, étonnante et pour tout dire, déroutante. En réalité, c'est là le second point que je voudrais essayer de mettre en valeur, cette parabole possède des échos multiples. Comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui donne naissance à des ondes de plus en plus larges, cet épisode du bon vigneron ne cesse de rayonner, de nous parvenir et de nous concerner. D'abord, le premier cercle est celui du refus et de l'indifférence assumée par l'auditoire de Jésus. Pourtant, ce figuier stérile d'une autre civilisation, d'un autre siècle, ne nous concerne plus. On ne se préoccupe pas aujourd'hui de la culture des figues à ce point-là. Ce n'est pas notre préoccupation. Alors nous aussi, comme l'auditoire, nous écoutons d'une oreille détachée, distante, peut-être indifférente, comme sans doute un grand nombre de personnes qui l'ont entendu de la bouche de Jésus. Bien évidemment, il ne s'agit pas de nous, mais des autres. Le second cercle, la seconde vague, invite en fait à une compréhension inverse, contradictoire. Réfléchissez, au-delà des apparences, bien évidemment, il s'agit de nous. Nous, donc je répète, c'est l'auditoire de Jésus. Décryptage est facile. Chaque membre de l'auditoire, paysan, viticulteur, commerçant, peut se reconnaître dans la situation. Comme le propriétaire de la parabole, les paysans palestiniens ont de belles vignes et veulent qu'elles fructifient au mieux. Ils n'ont donc que faire d'un figuier stérile dont se préoccupe tant cet ouvrier vigneron qui, en plus, voudrait leur apprendre leur métier en jouant les prolongations. Ils n'ont que faire de ce délai supplémentaire. Mais cette vague nous concerne aussi, nous, aujourd'hui. Elle atteint notre rivage d'hommes du XXIe siècle. En effet, elle nous met devant nos contradictions bien humaines. Nous y voilà. Qui, par exemple, ne se reconnaît pas dans le maître, le propriétaire? Comme lui, nous sommes persuadés d'être propriétaires de ce que nous possédons ou croyons posséder, parce qu'en fait, nous n'en sommes que des dépositaires, pourtant limités. Comme lui, nous ne doutons pas un seul instant de bien connaître la situation, d'utiliser les bonnes méthodes et de mener une gestion efficace à l'aide de graphiques, de statistiques, d'autres prévisions. Mais en même temps, qui, par exemple, ne reconnaît pas en ce vigneron un brave homme, plein de bonne volonté, mais aussi d'incertitude? Comme lui, nous sommes beaucoup occupés de la vigne et peut-être insuffisamment des figuiers. Le dernier cercle, la vague ultime, me semble-t-il, est fondamental. car elle nous donne à entendre un autre dialogue essentiel. Oui, au-delà du maître et du vigneron, il existe un dialogue entre un père et un fils, entre l'Éternel et celui qu'il a choisi, entre le Père et le Fils. Et c'est un dialogue de paix et d'espérance. Alors, le dernier point que je voudrais aborder avec vous est plutôt réjouissant. En fait, nous voilà en présence d'une parabole totalement nouvelle, bouleversée et animée par une générosité, une humanité presque incompréhensible. C'est un total renversement. Soyons précis. L'Éternel, d'abord, bien, il revêt un visage différent. Il ne s'agit plus d'un bourreau qui sanctionne, punit ou porte l'homme à se culpabiliser, mais de celui qui laisse à l'homme un espace de liberté. Ce figuier, bien sûr, il est totalement anecdotique dans le vignoble et il est destiné à disparaître pour des raisons économiques. Et en même temps, le voilà au centre des préoccupations. Et en fait, il établit un droit à exister, un droit spécifique à exister. La bonté et la générosité du vigneron dans cette affaire, bien sûr, elle prête à sourire. On peut penser qu'il est un peu stupide de vouloir recommencer ce qui a échoué. Il a bien travaillé, mais il a complètement échoué. Renversement, voilà qu'il est justifié et il est prêt à recommencer. Alors, quelle conclusion pour nous? Insensiblement, cette parabole de Luc a pris l'allure d'une espèce d'ordre de mission aux articles multiples qui nous est adressé, tel que nous sommes, riche en lucidité et en courage, et en même temps pauvre par nos faiblesses et nos erreurs. Ainsi, à nous de nous occuper de nos arbres desséchés, quels qu'ils soient, en nous, près de nous, autour de nous. À nous de cheminer, tels ce vigneron de bonne volonté, sur un chemin d'espérance. À nous, enfin, de nous poser quelques questions, libre à chacun d'y répondre comme il l'entend. Et si un arbre sans fruit avait le droit d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un arbre sans fruit? Et si nous n'avions pas choisi la bonne méthode? S'il fallait tout revoir? Et si, comme le vigneron, il fallait nous remettre en cause? Et si le temps de grâce qui nous est accordé était suffisant, amplement suffisant, pour l'espoir, pour l'espérance? Et si ce temps de grâce était le signe concret, précis, absolu, de ce que nous appelons la grâce? Peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. À chacun de vivre sa parabole. Amen.